marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Et comment tu te sens?
Oh, Barthélemy, je me sens comme Saint Augustin d'Hippone après sa conversion par Ambroise de Milan.
Saint Augustin, 354-430, notre contemporain.
Mes frères, retenez bien ceci pour le pratiquer et le prêcher avec douceur. Aimez les hommes, tuez le mensonge. Il est plus glorieux de tuer les guerres par la parole que les hommes par le fer. De gagner ou d'affermir la paix par la paix que par la guerre.
Jean Villard dans le rôle de Saint Augustin. Il vivait dans une Afrique du Nord romaine qui s'était crue à tort protégée des catastrophes. Mais la Méditerranée déjà était une. Après la prise de Rome en 410, Augustin vit les réfugiés affluer d'Italie. Il mourut dans sa ville épiscopale, Hippone, alors qu'elle était assiégée par les Vandales. Il y a peut-être quelque chose de l'Afrique romaine dans notre Europe occidentale. Le pouvoir politique est secoué de changements brutaux, le marasme économique aggrave la situation des faibles et des petits. On voit bien que quelque chose ne va plus. Néanmoins, on continue d'aller au jeu car on garde le sentiment d'être à l'abri. Et puis, un jour, le parapluie américain se replie. Pareillement, au 5e siècle, l'Afrique avait compris que Rome n'était plus dans Rome. Sans doute était-elle minée de l'intérieur, comme aujourd'hui les États-Unis. Un barbare imprévisible en prenait le contrôle. Le centre de gravité se déplaçait. En 410, revenons à 410, Saint Jérôme s'exclamait depuis Bethléem « Horreur ! L'univers s'écroule !» Mais, depuis Hippone, Saint Augustin répondait « Vous vous étonnez que le monde périsse, mais il est comme l'homme, il naît, il meurt. » Les civilisations sont mortelles, reste l'humanité. Elle est faite de toutes les générations, de tous les peuples, de toutes les langues. Elle espère, affirme Augustin, en la cité de Dieu. Forte de cette promesse, il lui faut vivre néanmoins dans notre temps intermédiaire, qui n'est pas nécessairement le royaume du mal. On peut attendre que s'y exerce la bienveillance et la patience plutôt que la violence. Ainsi, Augustin a-t-il pointé du doigt les trafics d'hommes, de femmes et d'enfants dans la Méditerranée de son époque. Il les nommait de cruelles navigations et il recommandait « Portez donc le fardeau mutuellement ».
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Claire Sotinel, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Bon, c'est à cause du sommet de Singapour que nous invitons Saint Augustin aujourd'hui. Il y a quand même une autre raison, plus modeste. Un numéro de juin de la revue L'Histoire, son premier numéro publié depuis le 40e anniversaire de la revue, numéro auquel vous avez participé de près avec Patrick Boucheron. Henri Maroux disait « Saint Augustin, c'est un des rares penseurs chrétiens que les non-chrétiens connaissent de nom. » Et pourtant, on est documenté sur lui comme sur personne d'autre dans l'Antiquité, peut-être Cicéron.
Oh, je pense qu'on est peut-être même plus documenté sur Augustin que sur Cicéron. L'œuvre d'Augustin, comme celle de Cicéron, mais on va peut-être pas pousser plus loin le parallèle, est immense. On a aussi des quantités de lettres qui ont été conservées, qui nous permettent de connaître l'homme dans ses relations sociales, dans les relations qu'il a tout tissé avec ses contemporains, de niveau social, de conditions extrêmement différentes. Et l'œuvre d'Augustin a été conservée pieusement dès son vivant et jusqu'à la période médiévale avancée, sans rupture, avec une continuité très forte. Et Augustin est un personnage, parmi tous les personnages historiques, qui est parmi les plus vivants, les plus vibrants, ceux qu'on peut le mieux percevoir, ce qui en fait aussi un de ses charmes.
professeur à Carthage, à Rome, à Milan, revenu en Afrique du Nord chrétienne après sa conversion, ordonné prêtre, élu par les chrétiens d'Hippone pour être leur évêque. Mais alors attendez, il ne faut pas imaginer un évêque en crosse, mitre et chasuble. Tunique de laine, légère, petite sandale, cheval pour les balades, enfin les missions.
Cheval pour les missions, voyage à pied, grande proximité avec le clergé, avec les habitants de la ville Hippone où il enseigne, avec ses collègues, dîner ensemble, toutes sortes de conditions. L'évêque au 4e, au 5e siècle, c'est dans une communauté assez petite, le pasteur le plus proche, plus semblable au curé que à l'évêque mitré que l'on connaît.
Dîner frugal, parce que il était dans la vérité. Michel Foucault appelle ça la gouvernance pastorale. Le pasteur doit d'abord dire la vérité sur soi, sur son désir et sur son comportement. On voit ça dans le livre qui est le moins mal connu de saint Augustin, les confessions, d'aucuns traduisent par les aveux, où il y a toute une réflexion sur le temps qui passe. Si personne ne me pose la question du temps, je sais ce qu'est le temps. Si quelqu'un me pose la question du temps et que je veuille expliquer, je ne sais plus.
L'homme sortira pour aller à sa tâche et il travaillera jusqu'au soir, car une génération s'en va et une autre arrive. Et voyez ces générations d'hommes sur la terre comme les feuilles sur les arbres. Ainsi, la terre porte les humains comme des feuilles. Elle est pleine d'hommes qui se succèdent, les uns naissant pendant que d'autres meurent. Cet arbre-là non plus ne dépouille jamais son vermanteau, mais regarde dessous. Tu marches sur un tapis de feuilles mortes.
Dans l'Antiquité, Claire Sentinelle, on croyait volontiers au caractère cyclique de l'histoire. Aujourd'hui encore, on dit l'histoire bégaye. C'est pas du tout la conception, c'est une formidable théorie de l'histoire de saint Augustin qui parle du présent, du passé, du présent et du présent du futur.
Alors, la conception cyclique de l'histoire, c'est la conception philosophique classique qui est une véritable théorie de l'histoire. La conception, le déploiement de l'histoire entre une origine et une fin, Augustin ne l'a pas inventée, elle est très présente, elle est élaborée progressivement dans la pensée chrétienne qui trouve des points fixes dans le temps, la création, l'incarnation, et la fin des temps que les premiers chrétiens attendent très tôt. Ce qui fait l'originalité de la pensée d'Augustin, c'est d'être non seulement profondément et confortablement installé dans cette conception linéaire du temps, mais aussi de considérer le temps dans ses parties intermédiaires, justement le présent du passé, l'avenir proche, et de refuser de se fixer sur une pensée apocalyptique qui déciderait du sens du temps au moment où nous le vivons.
Alors le passé est accompli, nous marchons sur un tapis de feuilles mortes. L'avenir est déjà là. Alors je vous propose, c'est une trouvaille de Franck Olivard dans les archives de la Radio Nationale. La Radio Nationale ici à destination de l'Algérie française. Je vous propose cette archive de 1954. C'est l'anniversaire de la naissance de saint Augustin. Et notez la date. Nous sommes précisément la première quinzaine de novembre 54. On va voir se déployer les pompes de l'Algérie française, mais le 1er novembre, à la Toussaint, 10 jours auparavant, avait commencé par une série d'attentats du FLN, l'insurrection d'Algérie.
Beaune, le parvis de la cathédrale, où prennent fin aujourd'hui les cérémonies du 16e centenaire de la naissance de saint Augustin, qui, comme on le sait, ont commencé à Soukaras jeudi dernier, 11 novembre. Un rayon de soleil a suffi pour animer le cours Bertagna, qui fait descendre en deux foules de procession ses ficus, ses palmiers et ses carrés de fleurs de la cathédrale au port. Le parvis de la cathédrale, où je me trouve actuellement, semble faire oublier le sanctuaire lui-même, car les grandes portes ont été fermées très tôt cet après-midi, et la place de la cathédrale, avec la nef verte du cours Bertagna, que je domine là actuellement, apparaît comme vraiment le cœur d'un sanctuaire, avec son estrade, ses prie-dieux, ses fauteuils drapés de rouge, où prendront place tout à l'heure les archevêques, les évêques et les prélats, venus des pays de tous les bords de la Méditerranée, afin d'assister aux cérémonies de ce 16e centenaire de la naissance de Saint-Augustin.
Encore quelques années, qu'est-ce qu'il restera de ce décor, de ce dispositif? Vous avez participé, Claire Sotinel, à un collectif sur Saint-Augustin en Algérie. Ça n'est pas sans rappeler les circonstances, non pas du centenaire de la naissance, mais de la mort, de la fin d'Augustin, avec le sac de Rome, le pillage de Rome, la prise de Rome en 410. Alors, toute proportion gardée.
Toute proportion gardée. Ce qu'il en reste, il y a eu 50 ans plus tard une célébration de l'anniversaire d'Augustin, mais qui était justement tellement différente, hein, parce que très corsetée par le pouvoir algérien, avec des barrières établies entre les universitaires du monde entier invités pour le célébrer et la population algérienne. Augustin a connu une période de catastrophe et de transformation radicale. Le sac de Rome, c'était un événement dramatique et d'une portée symbolique extrême. Mais l'invasion de l'Afrique par les Vandales, une quinzaine d'années plus tard, c'était vraiment la fin d'un monde, et Augustin l'a vécu effectivement jusqu'au bout. Et je crois que c'est là qu'est la ressemblance. C'est des moments où les choses se transforment, et se transforment de façon irréversible. Et vous disiez tout à l'heure qu'Augustin, c'était le pasteur qui inspire par son exemple. Eh bien, Augustin, il a continué de vivre à travers ces transformations. Il les a douloureusement ressenties, surtout la partie invasion, la partie église brûlée et personnes africains tuées par les Vandales. Mais il n'a pas quitté sa ville, il y est resté. Et à un de ses collègues qui lui disait « Ouh là là, les choses vont vraiment très mal, là, les Vandales arrivent. Ce serait quand même raisonnable que nous, les prêtres, on s'en aille pour garder un clergé, pour quand la guerre sera finie, qu'il y ait un clergé qui fonctionne. » Et à cette demande, Augustin a répondu par une lettre qui a été conservée « Pas du tout. Vous devez rester avec les gens. Et qui il y aura après, on n'en sait rien. Mais votre devoir, il est là dans l'immédiat, avec la population qui vit cette circonstance historique tragique. »
Alors, après 410, il ne cesse dans ses sermons, dans ses correspondances, de traiter de ce sujet. Et puis, 410, c'est l'occasion, plus que la cause d'ailleurs, de la rédaction d'un immense livre, le deuxième livre le plus connu d'Augustin, La Cité de Dieu, un livre de 22 livres, dont les 10 premiers sont consacrés à répondre aux païens qui disent « Ah ben voyez, c'est pas la peine de s'être converti au christianisme, Rome n'en a pas été protégée. »
Où est le Dieu des chrétiens? Et les chrétiens disent « Où est Pierre? Où est Paul? » Leur tombeau est à Rome et on vénère leur tombeau, et ils n'ont pas protégé la ville. Et c'est effectivement un tournant tout à fait fondamental. Pour les Romains, c'est un événement important. Pour les chrétiens, les chrétiens ont on dit pendant un siècle et demi, avec un empereur converti, tout va aller mieux. La conversion de l'empereur va favoriser Rome. Et là, ils sont mis face au fait que non, les choses peuvent aller très mal avec un empereur chrétien. Et ça crée un double défi pour Augustin et pour d'autres penseurs chrétiens. Les païens disent « voilà la preuve que votre Dieu est inefficace et qu'il faut revenir au culte ancien ». Et les chrétiens disent « mais on n'avait pas compris ça exactement ». Et c'est à ces deux questions qu'Augustin cherche à répondre dans la Cité de Dieu.
Alors on fait un palier, une pause, en latin bien sûr, parce que c'est le docteur de l'Église latine. Il lui manque peut-être d'ailleurs un petit peu de grec. Le Moyen-Âge sera très influencé par saint Augustin, y compris la communauté de Cîteaux, dont voici les chœurs contemporains. Alléluia, parce que rien n'est jamais joué, la promesse demeure.
Alléluia, Alléluia,
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Saint Augustin, un contemporain, avec Claire Sotinel qui a copiloté le dossier de la revue L'Histoire, consacré à l'élan cantissimus, doctissimus, je dis que je ne parlerai plus latin. Saint Augustin, qu'est-ce que c'est la Cité de Dieu? Dites-nous, parce que vous faites comme ça dans votre papier, dites-nous ce que c'est pas. Et qu'est-ce que c'est la Cité terrestre? Dites-nous ce que ça n'est pas.
La Cité de Dieu, on pense souvent, et on trouve ça chez des auteurs médiévaux à partir du XIIIe, XIVe siècle et jusqu'à l'époque contemporaine, on dit la Cité de Dieu, c'est l'Église, et la Cité terrestre, c'est ce qui est en dehors de l'Église ou ce qui est mal, ce qui est condamné. Et chez saint Augustin, c'est pas ça. La Cité de Dieu, c'est la cité de ceux qui sont sauvés une fois qu'ils sont sauvés. C'est-à-dire que la Cité de Dieu, elle est au ciel, pour utiliser une formule naïve. La Cité de Dieu, elle est supraterrestre et elle est ce qu'elle deviendra au-delà du temps. C'est la cité des hommes qui ont été sauvés.
Donc c'est pas l'Empire de Constantin.
C'est
une cité en exil dans la cité terrestre. La cité terrestre en est grosse.
Alors la cité terrestre, c'est une cité qui est... Mais alors, la cité terrestre de saint Augustin, c'est la cité qui penche vers ce qui est du siècle, de ce qui ne restera pas après la mort. Et la cité, ce sont deux pôles en quelque sorte. Et la cité, l'Empire romain pour Augustin, mais l'Europe pour nous ou le monde, enfin selon le temps, c'est le mélange des deux. Les citoyens de la cité céleste sont en exil sur la terre et sont mélangés avec les citoyens de la cité terrestre.
Donc c'est une question, on ne peut plus contemporaine aujourd'hui, autant de tous les fondamentalismes. On va écouter notre maître commun, André Mandouze, qui cite une phrase clé de la Cité de Dieu qui ne vous est pas encore venue aux lèvres.
C'est l'histoire d'un développement général, que c'est quelque chose que, en théologie, on appelle l'histoire du salut. Et l'histoire d'un salut qui pourrait se résumer dans le triomphe qu'on espère à travers le temps, d'un progrès, si vous voulez, d'un amour sur un autre. Je cite Augustin, « Ce qui a fait deux cités, c'est deux amours. La cité terrestre, c'est naturellement l'amour de soi, poussé jusqu'au mépris de Dieu. » La cité de Dieu, c'est inversement l'amour de Dieu poussé jusqu'au mépris de soi. Ce sont d'admirables formules qui ont traversé les siècles et je crois qu'ils indiquent bien ce travail en profondeur qui se fait dans cet engendrement d'une humanité qui va vers son destin divin.
Bon, engendrement, montée, d'accord. Mais Claire Sotinel, dans le temps intermédiaire, entremêlement.
entremêlement. C'est la cité est permixta, pour faire dire moi-même du latin en échange. Elle est, j'aime bien ce mot parce que je trouve que dans sa texture même, il y a vraiment cette idée du mélange presque jusqu'à la confusion. Et une des choses que dit Saint Augustin dans la Cité de Dieu, c'est que dans la société dans laquelle nous vivons, nous ne savons pas ce qui est. Nous pouvons reconnaître les citoyens en exil, justement parce qu'ils sont en exil, parce qu'ils ne sont pas installés dans la cité terrestre, au sens de la cité dans laquelle nous sommes, mais on ne les reconnaîtra que dans l'au-delà. Donc tout est possible. Et pour moi, pour moi et pour d'autres, hein, je ne suis pas une exégète novatrice de la cité de Dieu, mais cette idée de mélange et qui implique une coexistence nécessaire et possiblement pacifique, qui est quelque chose qui est dans la cité de Dieu. La cité dans laquelle nous vivons, c'est l'endroit où cohabitent les citoyens de la cité de Dieu et les autres. Et cette cohabitation peut être pacifique, dit très clairement Augustin, plutôt à la fin de son traité, parce qu'ils peuvent avoir en commun deux intérêts, la paix et la justice. Et je trouve effectivement que dans le monde dans lequel nous vivons, plein d'incertitudes, mais aussi plein de mélanges et plein de transformations, c'est une parole libératrice, c'est une parole qui porte une possibilité très riche.
Possiblement pacifique, possiblement guerrier. Alors, la question de la guerre. Réponse puisée chez saint Augustin d'André Mandouze, toujours.
Alexandre le Grand ayant demandé à un pirate tombé entre ses mains : à quoi penses-tu d'infester les mers ? Riposte avec une franche audace : ce que tu penses en infestant l'univers. Mais parce que j'opère avec un petit navire, on m'appelle brigand. Toi, parce que tu opères avec une grande flotte, empereur. Je n'ai pas besoin de faire de rapprochement, nous venons de parler du golfe. Un autre texte de la Cité de Dieu. Je ne vois pas du tout en quoi le salut public, les bonnes mœurs et même la dignité de l'État sont intéressés à ce que les uns soient vainqueurs et les autres vaincus. Il n'y a là que vaine éclat de la gloire humaine, gloire qui y trouve son compte.
Claire Sautinel.
Oui, les textes choisis par Mandouze sont extrêmement éloquents. Bien sûr, l'histoire est pleine de violence, hein, et pleine de calamités qui sont toutes inspirées par, j'ai le droit encore à un tout petit peu de latin, parce qu'Augustin appelle la libido dominandi, le désir, mais le désir, l'appétit de puissance. Et cet appétit de puissance, c'est ce qui permet, imaginez la force politique, de dire que un empereur, c'est un brigand qui a réussi, et de le dire. Alors, à d'autres moments, il a des correctifs. L'empereur de Rome, nos empereurs sont chrétiens et ils sont plus intéressés par un gouvernement juste que par le désir d'augmenter l'empire. Mais cette critique radicale du pouvoir politique, qui s'accompagne chez Augustin, une critique radicale du pouvoir politique trop grand, de l'ampleur de l'espace politique que l'on veut dominer, me paraît une critique radicale à son époque comme elle l'est
oui,
aujourd'hui.
Oui, mais en même temps, il a accepté les violences légitimes, alors dans le domaine politique ou dans le domaine de la conduite de l'Église. Il passe son temps à essayer d'unifier l'Église d'Afrique contre les différents courants déviants, alors que l'orthodoxie se met en place. Mais est-ce que l'Église a le droit de forcer ses enfants à revenir à elle par la violence ?
Alors, effectivement, Augustin, qui n'est pas... aussi un être de contradiction, comme nous tous, considère que, dans certains cas, la guerre peut être juste, une guerre défensive est une guerre juste, mais il ne dit pas pour autant qu'une guerre juste est une guerre bonne. La guerre peut être juste, elle ne sera pas bonne pour autant. Il dit, et ça lui a été beaucoup reproché, ça, on a beaucoup utilisé, que effectivement l'usage de la violence peut être légitime pour recréer l'unité de l'Église. Mais il ne dit pas que d'avoir recréé cette unité de l'Église transformera l'Église en une cité de Dieu. Il pense que c'est un objectif nécessaire, relatif, mais il ne fait, pour lui, l'usage de la violence n'est jamais un bien. Et la guerre est toujours un mal, même lorsqu'elle est juste. Cela dit, dans le contexte où il vivait, c'est vrai, pour Augustin, il valait mieux utiliser la force publique pour contraindre les donatistes plutôt que de laisser la division au sein de l'Église. Mais ce n'était pas un bien absolu que cette unité.
Et vous avez entendu Alexandre parler à un pirate qui infestait la Méditerranée. Mandouze, commentant ce passage, disait c'est la guerre du Golfe. On était à l'époque de la guerre du Golfe. Les réfugiés de Méditerranée et les cruelles navigations de Méditerranée. Il est toujours dans une contradiction. Il refuse de contester l'esclavage, mais il refuse l'enlèvement. Il refuse le trafic.
Il refuse, effectivement, il a écrit des textes importants sur des enfants abandonnés et vendus comme esclaves à des pirates pour être revendus en Italie. Il a vis-à-vis de ces ces trafics méditerranéens particuliers à son époque étaient très liés. D'une part aux réfugiés qui quittaient effectivement l'Italie pour aller s'installer en Afrique ou pour aller s'installer au Proche-Orient en des trajectoires exactement inverses à celles que nous connaissons aujourd'hui, qui étaient souvent des réfugiés assez prospères pour se payer le voyage, mais pas seulement. Mais c'était aussi le fruit d'une insécurité croissante, parce que l'Empire romain, qui ne faisait pas toujours converger ses efforts entre l'empereur qui était à Constantinople et celui qui était à Ravenne ou à Milan, laissait des espaces d'insécurité, donc de piraterie, de banditisme.
Et qu'il était bien difficile de remplir par la patience et la bienveillance qui doivent, dit Augustin, organiser l'espace commun. Donc le numéro de l'histoire de juin, avec votre participation, est consacré à saint Augustin.
La grande souffrance de saint Augustin, dans les derniers temps de sa vie, fut de constater que la guerre elle-même, la terrible invasion des Vandales, ne persuadait pas aux Africains de renoncer au jeu du cirque et aux autres spectacles démoralisateurs et cruels. On les continuait, ces jeux et ces spectacles, dans toutes les villes, alors que les populations tombaient sous le fer des barbares, que les ruines s'accumulaient, que la désolation s'étendait sur les plus riches provinces de l'Empire romain.
Voilà, c'est l'avertissement du cardinal Tisserand au moment du 16e centenaire de la naissance de saint Augustin en Algérie en 1954, au tout début de la guerre d'Algérie. L'émission était réalisée par Audrey Ripouille, la préparation Franck Olivard, la technique Loïc Frapsos. Chez vous, Mathieu Vidard.
Oui, Jean, on va s'intéresser à celui qui nous réchauffe et auquel nous devons la vie, notre étoile, le soleil dans la tête au carré.
Dans un instant, merci.